Certains auteurs contemporains, souvent en lien avec leur intérêt pour la figure de François d'Assise, se réfèrent à la pauvreté évangélique pour penser la vulnérabilité, sujet politique et social, sous un angle plus spirituel. Cette référence chrétienne, employée par des écrivains qui ne revendiquent pas l'étiquette d'écrivain catholique, vise avant tout à prendre le contre-pied des mentalités dominantes. Le pauvre est soit l'invisible, le négligeable, soit le représentant d'un état que la société se doit d'éradiquer. Pour cette doxa, la pauvreté choisie de François d'Assise, donc qui est un saint, pour ceux qui ne connaissent pas, un saint italien du Moyen-Âge. Donc la pauvreté choisie de François d'Assise, fondement de sa spiritualité, est incompréhensible. Si bien que l'écrivain Yannick Hanel, dans « Je cherche l'Italie », qui est un recueil d'essais publié en 2015, l'envisage comme un acte de résistance aux lois de l'économie. Elle devient par sa plume le fondement d'une politique anticapitaliste. Donc je vous cite un extrait. « Car la pauvreté volontaire des franciscains ne relève pas de la sottise, mais au contraire d'une espérance, c'est-à-dire d'une alternative spirituelle et politique. Elle déjoue, conjure le danger qui, dès le XIIIe siècle, commence d'arraisonner le monde occidental dans la logique unique du calcul. Est-il possible d'exister en dehors de la comptabilité ? Au fond, il n'y a pas d'autre question politique. La réponse franciscaine plaide pour une gloire du minoritaire, sortir du discours capitaliste, s'étendre vers le saint. » L'écrivain propose une lecture politique de la spiritualité franciscaine pour construire la figure du saint en idéal de l'opposant. En construisant un François anticapitaliste, Yannick Hanel rejoint une politisation du saint présente au XXIe siècle dans la mouvance altermondialiste. Cependant, pour reprendre la formule d'Agamben, qui est un philosophe dans « De la très haute pauvreté » à propos de la spiritualité franciscaine, l'écrivain est aussi séduit par une forme et un mode de vie, presque impensable pour notre modernité. Le choix de se placer en position de vulnérabilité se retourne en effet en force spirituelle. L'exemple des représentations littéraires de la pauvreté questionne bien la hiérarchie des valeurs. Il rejoint de ce point de vue les réflexions de la sociologue Nathalie Heinick sur la nouvelle élite de la visibilité en régime médiatique. La popularité est, selon la sociologue, devenue le nouveau critère d'excellence à la place du mérite. Prenant le contre-pied des attributs de l'homme célèbre, certains auteurs contemporains choisissent de s'attacher au petit. Le héros devient le minuscule. L'attention sociale à la pauvreté est donc reliée à une esthétique de l'insignifiant. La littérature apparaît alors comme une forme d'action contre la tendance dominante de son époque qui méprise les invisibles. Elle prend par cette esthétique le parti de les relever et tente de fonder sa légitimité contre celle des médias, appuis les plus précieux de la nouvelle élite identifiée par Nathalie Heinick. Sylvie Germain, par exemple, donc qui est une écrivaine contemporaine, place la pauvreté et l'humilité à rebours de l'époque, au cœur de son esthétique, et en particulier pour la construction de ses personnages. Que l'on songe à la mendiante, personnage principal de La pleurante des rues de Prague, qui est un texte publié en 1992, ou à Lily, anti-héroïne insignifiante des petites scènes capitales, qui est un roman paru en 2013. Dans son essai sur les personnages, Sylvie Germain raconte une anecdote qui prend valeur d'exemple. Michel-Ange refusa d'ajouter de l'or au personnage représenté dans la chapelle Sixtine, comme le lui demandait Jules II. Sylvie Germain y admire une esthétique qui puise la splendeur dans la pauvreté. Je cite « À l'or des riches, Michel-Ange a préféré l'éclat de la peau nue, la force du dépouillement, l'éclat et aussi la vulnérabilité de la peau humaine. » Elle définit ici un nouveau réalisme qui ne s'appuie pas sur le pathétique de la pauvreté, qui ne cherche pas non plus à l'embellir au prix d'un beau mensonge. La romancière présente son rôle comme l'accueil de l'insignifiant, que ce soit le personnage lui-même, défini en mendiant ou en suppliant, ou bien un petit pan de réalité demeuré jusque-là enfoui, ou du moins négligé. Du paradoxe spirituel, elle tire finalement un paradoxe esthétique, puiser la beauté dans le dénuement, dans la faiblesse. Les écrivains qui portent les marges sur le devant de la scène le font moins par rejet de la société que pour souligner leur valeur pour la société. Ils s'inscrivent donc dans un travail de liaison plutôt que de déliaison. C'est finalement le pas de côté permis par le littéraire, et non son isolement, qui fonde sa légitimité et son autonomie par rapport aux autres instances sociales. D'ailleurs, mettre en lumière la pauvreté signifie non seulement s'intéresser au réel, mais aussi le révéler. La littérature se présente ici comme le lieu d'un savoir inédit sur la société, faisant concurrence aux sciences humaines, et presque d'un savoir mystique lorsque les auteurs se réfèrent à la pauvreté évangélique. L'analyse littéraire convoque une autre appréhension de la valeur, indépendamment et au-delà des références économiques. C'est bien dans ce sens que Pierre Michon, un autre écrivain contemporain, souligne l'importance pour l'écrivain de maintenir un intérêt pour la figure du pauvre, abandonnée selon lui par une société déchristianisée d'une part et confrontée à la fin de l'idéologie marxiste d'autre part. Je cite Pierre Michon, « La figure chrétienne du pauvre a disparu depuis belle lurette. Celle du prolétaire s'abîme sous nos yeux. Une telle figure est nécessaire à la communauté. Elle ne me semble plus subsister que dans la littérature. Le pauvre, c'est ce qui titille la communauté du côté où quelqu'un, retranché d'elle, lui réinsuffle un sens qu'elle a perdu. » S'il parle ici du personnage du pauvre, il évoque également la place et le rôle de l'écrivain dans la société. Le pauvre est en quelque sorte le reflet de l'écrivain, déconsidéré aussi par la société qui ne lui accorde plus autant de prestige. L'écrivain explore donc aussi sa propre vulnérabilité et fait à travers ce personnage du pauvre l'apologie du détachement. C'est bien ce que loue Yannick Hanel dans son roman « Cercle », paru en 2007, comme dans son essai « Je cherche l'Italie », où il présente la solitude de François d'Assise comme un modèle de dégagement pour l'écrivain. Elle correspond à sa définition de la littérature comme affirmation à la fois spirituelle, poétique et politique. On le voit, cette conception de l'écrivain ne correspond pas dans son esprit à une fuite hors du monde. Elle affirme par son écart une position éthique de l'écrivain et un mode d'action face aux réalités socio-économiques. Dans ses romans, le personnage narrateur-écrivain s'apparente d'ailleurs à un vagabond. Le narrateur de Cercle quitte son travail dès la première page du roman pour vivre en marge, dans une forme de précarité qu'il tient comme le fondement de sa liberté. Dans Les renards pâles, qui est un autre de ses romans paru en 2013, il vit dans sa voiture. Dans Tiens ferme ta couronne, son dernier roman paru en 2017, il habite un studio qu'il doit cependant bientôt quitter, sans pour autant chercher un autre logement. Il finit d'ailleurs par partir de Paris pour le lac de Nemi, un lieu mythique qui rappelle en filigrane la vie de François d'Assise, s'installant à Rivotorto, au milieu de la forêt. C'est donc une fois de plus le schéma de la désertion qui intéresse l'écrivain dans le mode de vie franciscain. Mais l'acte spirituel de François d'Assise est admiré ici pour sa marginalité rebelle et totalement coupée de son sens évangélique qui est à l'origine de suivre le Christ. L'attention aux plus faibles, présente dans les romans, à travers notamment la figure du mendiant dans Cercle, de l'immigré dans Renard pâle, de l'ivrogne dans Tiens ferme ta couronne, va de pair avec le constat d'un affaiblissement de la figure de l'écrivain, présenté en souverain déchu, dans « Tiens ferme ta couronne », titre qui recèle en lui-même une forme d'ironie sur soi. Il utilise en effet deux modèles de grands auteurs portés au nu puis renversés par l'échec, l'écrivain Herman Melville et le réalisateur Michael Cimino. Le narrateur compare ainsi son double idéal, Melville, à un vieux roi shakespearien qu'on a cessé de bafouer et qui persiste après sa mort à manifester une souveraineté que personne ne lui a jamais reconnu. Il se moque sans doute du double jeu de l'artiste, lucide sur sa petitesse, mais incapable de renoncer à ses rêves de gloire et d'immortalité. Le souci de la gloire est ainsi présenté comme une forme de vulnérabilité. si les réalités économiques régissent le visible dans le réel, la célébrité contre la relégation, la grandeur face au négligeable, la force face à la faiblesse, la littérature a pour mission non d'infirmer le visible, mais d'affirmer l'invisible, d'élargir la perception du réel en proposant un savoir presque mystique. Le détachement prôné par ces auteurs, en accord avec leur intérêt pour le pauvre ou le marginal, vise à proposer une autre vision du monde, fondée sur des valeurs résolument spirituelles. En plaçant la pauvreté au cœur de leur esthétique, ces auteurs contemporains proposent au lecteur un accès spirituel à l'ordinaire, différent d'un accès politique ou économique, qui verrait dans le pauvre une classe sociale qu'il faudrait élever ou prendre en charge, comme dans la plupart des systèmes démocratiques. Réhabiliter le pauvre et réévaluer son importance pour la communauté, comme l'indique Michon, revient en effet pour la littérature à contester une perception économique de l'humain qui exclut le pauvre, non seulement parce qu'il ne correspond pas aux critères de réussite ou de croissance, mais encore parce que son altérité est elle-même révélatrice de l'échec ou de l'insuffisance du modèle qu'elle promeut et impose à la société. Je vous remercie.